VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 1er décembre 2015. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Roch Marc-Christian Caboret, élu président du Burkina Faso, dès le premier tour de l'élection de dimanche.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, propose trois options pour résoudre la crise au Burundi.
En RDC, une coalition de l'opposition qualifie le dialogue national du président Kabila de déclaration de guerre contre le peuple congolais.
En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé a déposé sa candidature pour la présidentielle du 27 décembre.
La journée mondiale de lutte contre le sida est observée aujourd'hui.
Qu'attend l'Afrique de la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient à Paris? Nous aurons la réponse d'un expert du continent. Ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Roch Marc-Christian Caboret, ancien baron du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, passé dans l'opposition, a été élu président du Burkina Faso à l'issue du premier tour de la présidentielle de dimanche, a annoncé lundi soir la Commission électorale nationale indépendante. De Ouagadougou, notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Ce lundi, les tendances sont restées constantes en faveur de Roch Caboret, le candidat du MPP. Avant la proclamation des résultats provisoires, ses supporters avaient pris d'assaut hier soir le siège de campagne du parti situé dans l'est de la capitale. C'est finalement après minuit que le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, a livré les résultats complets. Des résultats qui confirment la victoire écrasante de Roch Caboret sur les 13 autres candidats. Caboret a obtenu, selon la CENI, 53,49% des suffrages exprimés. Zéphirin Diabré, son challenger de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, qui arrive en deuxième position, obtient 29,65% des voix. Dans un geste inédit au Burkina Faso, Diabré et plusieurs autres candidats ont reconnu leur défaite et félicité Caboret pour son écrasante victoire. Sur place, les militants n'ont pas caché leur joie.
Je suis très contente. Marc-Christian a pris le pouvoir un coup KO, comme on l'espérait. On a vraiment bien travaillé. Donc, je ne trouve même pas de mots pour exprimer mes sentiments.
C'est l'homme qu'il faut pour le Burkina. On a bien choisi, on a trié. C'est l'homme qu'il faut pour le Burkina. Merci.
Vraiment, je pense que Roch, c'est l'homme qu'il faut. Parce que les candidats même qu'il a compétit avec ont reconnu cela. Donc, je pense que c'est vraiment la première en Afrique.
Bagassi Koura, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Burundi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a proposé lundi au Conseil de sécurité trois options pour régler la crise dans ce pays, dont l'envoi de casques bleus dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Dans une lettre, M. Ban recommande cependant au Conseil d'adopter pour l'instant l'option 3, c'est-à-dire l'envoi à Bujumbura d'une simple équipe de soutien chargée de promouvoir un dialogue politique entre pouvoir et opposition. Les précisions de Jean-Roger Bion.
M. Ban a souligné que la situation s'était dégradée et que le Burundi, à peine sorti d'une longue guerre civile, est au bord d'un autre conflit armé qui aurait des effets désastreux sur une région déjà fragile. Dans sa lettre, le secrétaire général souligne qu'étant donné les réalités politiques existantes et les conditions de sécurité sur le terrain, la seule option réaliste pour le moment est une mission politique. Il recommande cependant au Conseil de réviser le mandat de la présence de l'ONU au Burundi en fonction de l'évolution de la situation, ce qui laisse ouverte la possibilité d'une véritable mission de maintien de la paix si la crise devait déraper. Cependant, pour pouvoir envoyer des casques bleus, il faudrait l'accord de Bujumbura ou l'adoption d'une autre résolution contraignante du Conseil. L'équipe de l'ONU devra travailler avec le gouvernement burundais et les autres protagonistes pour soutenir un processus de dialogue politique crédible et conseiller Bujumbura sur la sécurité et les droits de l'homme, souligne M. Ban dans sa lettre.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a décidé de confier conjointement à la majorité et à l'opposition la modération du dialogue national qu'il vient de convoquer en vue d'élections apaisées, a-t-on officiellement annoncé lundi à Kinshasa. Interrogé par l'AFP sur cette annonce, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti historique d'opposition, a indiqué qu'elle se prononcerait officiellement mardi. Lundi, une coalition d'opposition a publié un manifeste qualifiant ce dialogue national de déclaration de guerre contre le peuple congolais destinée à imposer une présidence à vie.
En République centrafricaine, l'ex-président François Bozizé a déposé sa candidature pour la présidentielle prévue le 27 décembre. Anastasie Studièche.
Bertin Béat, secrétaire général du parti Kwanakwa, l'ancien parti au pouvoir, a révélé hier qu'il a déposé le dossier de François Bozizé vendredi dernier à la date limite de dépôt des candidatures. Julius Ngwande Baba, rapporteur de l'Autorité nationale des élections, a confirmé le dépôt de dossier. L'ANE a 8 jours pour examiner et valider avant de transmettre les dossiers acceptés à la Cour constitutionnelle. En août, le gouvernement avait estimé que les sanctions de l'ONU, dont une interdiction de déplacement et un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Bozizé, étaient des obstacles à sa candidature. Mais son parti, le KNK, estime qu'il est présumé innocent tant qu'il n'y aura pas de procès. L'ancien président, 69 ans, vit en exil depuis son renversement par les rebelles de l'ex-Séléka en mars 2013. Après de multiples reports, le premier tour des élections législatives et présidentielles est prévu le 27 décembre en Centrafrique.
Une vingtaine de radios et télévisions privées du Niger ont suspendu lundi soir leurs émissions durant 2 heures afin de protester contre les violences policières subies depuis janvier, disent-elles, par des journalistes lors de manifestations à Niamey, a constaté l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutter contre le réchauffement climatique, c'est le thème de la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient à Paris. Les enjeux de ce sommet avec notre correspondant sur place, Christian Panzou.
Pour le président camerounais Paul Biya, l'enjeu de la COP21 est d'assurer la survie de l'espèce humaine. La communauté internationale a pris conscience des risques liés au changement climatique, mais l'heure est désormais à l'action. Les principaux responsables du réchauffement de la planète doivent agir. Les pays industrialisés sont clairement montrés du doigt lors des négociations. Les nations en développement leur demandent plus d'engagement. D'abord un engagement en termes de réduction des émissions des gaz à effet de serre, la cause principale du réchauffement de la planète. Ensuite, un engagement financier pour venir en aide aux pays émergents dans leur lutte contre les bouleversements climatiques. Les pays développés doivent donc se montrer à la hauteur d'un accord qui devrait les obliger à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour financer des projets liés au climat dans les pays du Sud. Le président chinois Xi Jinping incite même les pays riches à prolonger leur aide financière au-delà de 2020. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
À Baltimore, dans l'est des États-Unis, s'est ouvert hier le procès de 6 policiers accusés d'homicide à la suite de la mort d'un jeune noir. Cet incident avait déclenché de violentes émeutes en avril dernier, John Lyndon.
Les 6 policiers, 3 noirs et 3 blancs, dont une femme, vont comparaître séparément. William Porter, un policier noir, sera le premier au banc des accusés. Il doit répondre aux homicides involontaires, violences et fautes professionnelles. La première journée a été consacrée à la sélection du jury. Le 12 avril dernier, Freddy Gray avait été interpellé. Il a été transporté pieds et mains liés dans le fourgon de la police. Il a été victime d'une grave blessure aux vertèbres cervicales et est décédé une semaine après. Sa mort avait déclenché de violentes émeutes et pillages, poussant les autorités de Baltimore à décréter l'état d'urgence, un couvre-feu nocturne et appeler en renfort la garde nationale. Depuis, la ville a débloqué 6,4 millions de dollars pour compenser la famille de la victime et la justice suit son cours. Les 6 agents plaident non coupables. Leurs avocats ont tenté d'obtenir que les audiences se tiennent ailleurs, mais le juge Barry Williams a refusé cette délocalisation. Ce procès, qui sera très suivi, va durer plusieurs mois.
La Minute Éco avec Nathalie Barge.
La firme britannique Actis a acquis une participation majoritaire dans le gestionnaire de fonds de pension nigérian Sigma Pension pour 62 millions de dollars, rapporte Financial Afrique. Avec 650 000 clients, 11 bureaux et 32 centres de services, Sigma Pension couvre l'ensemble des États nigérians. Actis a investi environ 3 milliards de dollars en Afrique, dont 570 millions dans le seul secteur des services financiers. Le gouvernement burkinabé bénéficie d'un financement de plus de 22 milliards de francs CFA du pool bancaire national pour la mise en œuvre du projet de télévision numérique de terre, rapporte l'APA. Objectif de la TNT, couvrir 100% du territoire. Avec le système analogique, la couverture est de 53% jusqu'ici. À cela s'ajoute notamment un potentiel d'une quinzaine de chaînes gratuites et l'accès à l'Internet mobile à très haut débit. Le coût global de cette transition numérique se chiffre à plus de 40 milliards de francs CFA. Ouverture ce mardi à Abidjan de la 5e édition du Salon de l'architecture et de l'habitat. Faites-le avec l'architecte et le thème d'Archibat 2015, visant à démontrer les avantages pour les maîtres d'ouvrage d'associer les architectes. Au cours de la semaine, les architectes vont conseiller et orienter les acteurs de la mise en œuvre afin d'aider à réaliser des habitats aux normes économiques et durables.
Maintenant les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Irissa.
La CAN des moins de 23 ans a débuté au Sénégal depuis quelques jours.
La deuxième journée de la poule A à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor, Zambie, Afrique du Sud et surtout Sénégal, Tunisie. Les Lionceaux de la Teranga se sont imposés 3-1 contre l'Afrique du Sud. C'était samedi lors du match d'ouverture. La Tunisie a remporté de son côté son match contre la Zambie, 2-1. Le choc donc entre les deux leaders de ce groupe, Tunisie-Sénégal. Écoutons Badar Assar, le sélectionneur adjoint sénégalais.
Nous avons remporté le premier match, comme la Tunisie qui a remporté aussi son premier match. Donc c'est un duel entre les deux équipes qui sont classées premières. Donc c'est un match hyper important qui peut ouvrir les portes de la demi-finale. Donc on va aborder ça avec le plus grand sérieux qu'il faut, parce qu'en face on a un adversaire de taille, la Tunisie, une bonne équipe. L'a montré l'autre jour. Et c'est une compétition où toutes les équipes ont le même niveau. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de favori dans ce genre de compétition-là. C'est du 50-50. La Tunisie l'a montré l'autre jour. Elle a fait un très bon match. Donc c'est du 50-50. L'objectif, comme on l'a dit au départ, c'est d'être sur le podium, de se qualifier pour les JO de Rio. Donc depuis le départ, c'est ce qu'on s'est dit. Mais maintenant, on ne peut pas cracher sur la première ou la deuxième place. C'est important de participer encore pour une deuxième fois aux JO.
Badar Assar au micro d'Andinsi, notre correspondant à Dakar.
Pas de surprise pour la liste des trois finalistes du Ballon d'Or.
Oui, l'Argentin Lionel Messi du FC Barcelone, son coéquipier le Brésilien Neymar, ainsi que le Portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes du Ballon d'Or 2015. Le trophée sera décerné le 11 janvier à Zurich. Cristiano Ronaldo, double tenant du titre du trophée, et Lionel Messi, quatre fois vainqueur, sont encore une fois sur le podium. Lionel Messi est le grand favori devant Cristiano Ronaldo, auteur d'une saison blanche en termes de trophée collectif, malgré des statistiques individuelles de très haut niveau. Tenez-vous bien Idrissa, Ronaldo a été le meilleur buteur de la Liga la saison dernière avec 48 buts. Il est actuellement en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions avec 7 buts.
L'athlétisme kényan dans l'œil du cyclone.
Oui, le Kenya bientôt comme la Russie. En tout cas, l'étau se resserre autour du pays et de ses pratiques dopantes. Avec les suspensions hier des trois plus hauts responsables de la Fédération kényane d'athlétisme par la Fédération internationale. Le comité d'éthique de la Fédération internationale a annoncé la suspension du président de la Fédération kényane, Isaiah Kiplagat, de son vice-président David Okeyo et de Joseph Kinyua, le trésorier de la fédération. Les motifs avancés font frémir. Il s'agit, je cite, d'agir dans l'intérêt de l'intégrité du sport. Pour le moment, seules les têtes tombent au Kenya, pas encore le système, comme en Russie. Et le Kenya espère éviter le sort de ce dernier pays suspendu de toute compétition d'athlétisme à 9 mois des Jeux Olympiques de Rio. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston battu par Detroit 116-105, Boston bat Miami 105-85, Oklahoma City 100, Atlanta 106, Chicago bat San Antonio 92-89, Denver 74, Milwaukee 92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydou Dia. Place à nos dossiers du jour. Nous commençons par le Burkina Faso, où Roch Marc Christian Kabore a été déclaré élu dès le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche par la Commission nationale électorale indépendante. Plusieurs de ses 13 adversaires, dont Jeffirin Diabré, arrivé en deuxième position, ont reconnu leur défaite et félicité M. Kabore pour sa victoire. Que serait-il passé s'il y avait eu contestation des résultats qui doivent être proclamés officiellement par le Conseil constitutionnel? Au micro de Zoumana Wonogo, les explications de Kassoum Kambou, président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso.
C'est le code électoral que nous appliquons, c'est ce que la CENI applique également. C'est-à-dire que le code donne cette possibilité à la CENI d'avoir un délai auquel il n'est pas tenu. Il peut aller jusqu'à une semaine, mais s'il dit qu'il peut tenir 24 heures, 48 heures, selon les moyens dont il dispose, bon, c'est son droit le plus absolu. Mais nous, il y a des droits qui appartiennent aux citoyens qu'on n'a pas le droit de restreindre. Vous imaginez un peu si on dit, bon, la CENI proclame les résultats aujourd'hui, nous proclamons les résultats demain, et qu'un candidat le septième jour veut réclamer un problème, bon, voilà, dans une des régions assez éloignées, n'a pas eu le temps d'arriver, mais il va dire, mais la loi me donne 7 jours, vous a proclamé 3 jours avant, vous me privez de mes droits, et nous, on aura violé la loi en ce moment, alors que notre rôle, c'est de garantir justement l'application de la loi.
Pouvez-vous revenir sur les marges de manœuvre que vous offre la loi en termes de délai avant la proclamation des résultats définitifs?
Si vous prenez chaque type d'élection, il y a deux types de recours. Quand vous prenez l'élection présidentielle, vous avez des recours dès la fermeture des bureaux de vote. Vous avez un délai de 48 heures pour contester la régularité des opérations de vote contre un candidat. Et le candidat dont vous contestez la manière dont les opérations de vote se sont déroulées à son endroit, on l'informe qu'il a 24 heures pour répliquer. Il a le droit de savoir qu'est-ce qu'on lui reproche et il a 24 heures pour répondre. Et après les 24 heures, le conseil constitutionnel a 8 jours pour statuer. Après de ce matin, il y a 48 heures pour attaquer la manière dont les votes se sont déroulés pour un candidat. Donc là, on a 8 jours. Ensuite, dès que la CENI proclame les résultats, toujours en matière d'élection du président du Faso, les candidats ont 7 jours francs pour faire des réclamations, pour contester des résultats. Après les 7 jours qu'on n'a pas le droit de restreindre, la loi donne au Conseil constitutionnel 15 jours pour régler, juger tous les conflits, toutes les contestations avant de proclamer les résultats. Si on les juge avant les 15 jours, on proclame. Si on ne peut pas juger avant les 15 jours, on sera obligé de d'épuiser les 15 jours, mais on n'a pas le droit d'aller au-delà des 15 jours. Donc si vous voyez bien, pour avoir les résultats, il faudra attendre au moins 3 semaines maximum après la proclamation par la CENI pour les résultats définitifs en ce qui concerne l'élection présidentielle. Pour les législatives, là également, dès la fermeture des bureaux de vote, il y a deux types de recours qu'on peut faire. D'abord, sur la manière dont les votes se sont déroulés, les opérations de vote, et sur la manière dont le dépouillement a été fait. Les citoyens ont 72 heures pour contester. Et là encore, la loi donne 8 jours au Conseil constitutionnel pour régler tous ces petits litiges-là avant de proclamer les résultats. L'autre catégorie de délai, c'est après la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Dès que la CENI, en matière d'élection des députés, proclame les résultats, s'il les proclame aujourd'hui, les citoyens ont 7 jours pour attaquer les résultats. Maintenant, là, les délais sont différents par rapport à l'élection présidentielle. Là, le Conseil constitutionnel a 8 jours pour régler ces problèmes.
C'était M. Kassoum Kambou, président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En République démocratique du Congo, le dialogue national annoncé par le président Joseph Kabila agite toute la classe politique. Sur l'opportunité d'une telle rencontre, John Lindon a d'abord joint M. François Bamoulouéné, ambassadeur de la RDC aux États-Unis.
Cette annonce veut tout simplement dire que bientôt on va aller aux élections et qu'il faut qu'on les prépare d'une manière consensuelle et paisible surtout.
Vital Kamerhe, hier ami du président Kabila et aujourd'hui opposant, accuse le président Kabila de vouloir fonder une nouvelle république en changeant le système électoral. Qu'est-ce que vous lui répondez?
La seule réponse que je peux lui donner, c'est d'aller au dialogue de le dire et d'empêcher ce que lui pense que ça va se faire. Qu'il aille au dialogue et empêche ce mécanisme si ça existe réellement.
À supposer que ce dialogue national ait lieu, va-t-il rétablir la paix et l'unité entre les Congolais et surtout la confiance entre opposition et gouvernement?
C'est le principal but recherché. C'est que nous sommes à un tournant très, très, très délicat. Et il faudra que tout le monde se mette ensemble pour essayer de tracer l'avenir proche de notre pays et que tous les Congolais comprennent que c'est le moment de parler. Il y a eu abus par ici, abus par là. Maintenant, mettons-nous ensemble pour mettre de l'ordre et aller aux élections d'une manière paisible.
À votre avis, Excellence, de quoi souffre la RDC aujourd'hui et comment la guérir?
La RDC souffre de problèmes de compréhension, des problèmes d'entendement. Il est vrai qu'il y a les textes qui existent, mais il est aussi vrai que par moments, les gens ont des entendements qui ne sont pas ordonnés. Alors, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse arriver à un entendement commun pour que ce pays ne puisse pas encore aller dans des situations de confusion totale. On n'en a pas besoin aujourd'hui. On voudrait aller vers la paix, le faire en paix et pour le Congo seulement.
Monsieur François Bamulwene, ambassadeur de la RDC aux États-Unis. John Lindon a également recueilli la réaction de Joseph Olengakoy, président des forces novatrices pour l'Union et la solidarité, FONUS, à Kinshasa.
Moi, je crois que ma réaction est simple. Monsieur Kabila a exprimé la volonté de ne pas quitter au pouvoir. Vous savez, on n'a jamais vu dans un pays où les règles des jeux ont été clairement défini dans la Constitution, et un président qui arrive à la fin de mandat et qui demande à ce qu'il y ait des négociations ou de pourparlers politiques avant qu'il parte. Moi, je crois que c'est impossible. Et notre peuple a déjà compris cela.
Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous faites à l'endroit du président Kabila, comme l'a d'ailleurs souligné Lambert Mende s'adressant à Vital Kamerhe?
Non, non, vous savez, c'est seulement question pour moi de faire un procès d'intention à M. Kabila. M. Kabila, je peux vous le dire clairement, il a des intentions d'arrêter. C'est une intention, la lecture même de son discours vient de nous prouver que c'est un monsieur qui veut maintenir l'ensemble des peuples congolais comme les poissons dans son aquarium auquel lui seul va détenir l'oxygène, de montrer au monde comment nous allons le défaire s'il n'arrive pas à respecter la Constitution.
À supposer que ce dialogue national ait lieu, allez-vous y participer?
Mais on vous dit non. Alors je vous répète encore une fois, non. Parce que l'ensemble de notre peuple n'a pas le cœur à ce dialogue. Notre peuple à le cœur dans l'organisation des élections pour vivre l'alternance du pouvoir dans le pays.
Joseph Olengakoy, président des forces novatrices pour l'Union et la solidarité, FONUS, à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Qu'attend l'Afrique de la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient à Paris? Eh bien, au micro de Georges Léonard Sagnot, quelques éléments de réponse avec Mohamed Béavougui, directeur général de la Mutuelle africaine pour la gestion des risques climatiques, qui participe au sommet.
Au-delà du discours optimiste que nous avons entendu ce matin, je crois que l'Afrique a un message qui est très clair. C'est celui de dire, voilà une réalité, l'Afrique sera le sanctuaire qui va sauver le monde s'il est protégé. Et puisque c'est un service qui est rendu au monde, le monde entier doit contribuer à s'assurer que l'Afrique reste protégée et que ses ressources naturelles ne disparaissent pas. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité globale vis-à-vis de l'Afrique, et je crois que cela est compris aujourd'hui. Mais en même temps, ce que l'Afrique est en train de dire, c'est que nous ne sommes pas là seulement pour tendre la main. Nous sommes là aussi pour montrer que nous avons des solutions innovatives, uniques, dans le monde aujourd'hui, qui sont cités en exemple même par le G7. Vous vous souviendrez que lors du dernier G7, ARC a été cité comme l'un des modèles à soutenir pour, parce que c'est un système qui est autosuffisant et qui est durable.
Alors, qu'est-ce que cette institution compte faire ou est en train de faire pour freiner les effets des pays industrialisés qui produisent beaucoup de carbone?
L'Afrique demande à ce qu'elle soit soutenue afin de s'adapter au changement climatique. Mais la l'Afrique ne le fait pas seulement dans la même. L'Afrique apporte aussi ses propres solutions. Et c'est pourquoi, il y a 2 ans, le gouvernement africain a mis en place African Risk Capacity. En français, c'est la mutuelle pour la gestion des risques climatiques en Afrique. Cette mutuelle a un objectif très clair. C'est celui d'aider les Africains à faire face aux désastres et aux conséquences du changement climatique. En faisant quoi? D'abord, en aidant le gouvernement à comprendre le niveau de risque et à prévoir. Et ensuite, à organiser des plans de réponse, ce qu'on appelle les plans de contingence, par rapport aux risques qu'ils ont en face d'eux.
Est-ce que sur le continent, les études que votre institution a menées sur le terrain vous prouvent que, justement, l'Afrique est prête ou les pays africains sont prêts à s'assurer face aux risques climatiques?
Vous avez tout à fait raison. Les gouvernements africains sont confrontés à des contraintes budgétaires face aux défis auxquels ils sont confrontés. Et amener une nouvelle dépense qui est relative à l'assurance est certainement un défi supplémentaire.
C'était de Paris Mohamed Béavougui, directeur général de la Mutuelle africaine pour la gestion des risques climatiques. Enfin, aujourd'hui, on observe la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année, zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Au Cameroun, une semaine d'activité a été organisée pour sensibiliser les populations sur la nécessité du dépistage. Cependant, les séropositifs déplorent un manque accru d'antirétroviraux et le traitement onéreux dans les centres de santé. De Yaoundé, reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
C'est l'ambiance d'une caravane de personnes vivant avec le sida dans les rues de Yaoundé au Cameroun. Elle encourage les populations à aller se faire dépister. Certains jeunes Camerounais comme Christine Eton souscrivent déjà à cette idée.
Le VIH est une maladie comme tous les autres. Fini l'époque où lorsqu'on était infecté, on était la honte de la famille. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH sont moins stigmatisées. En plus, les CDN font des enfants vivre longtemps lorsqu'ils suivent régulièrement leur traitement.
Pourtant, la réalité fait état de la discrimination qui persiste, comme le confirme Angèle Nanga, étudiante à Yaoundé.
Juste me faire à l'idée que je suis séropositive me donne des sueurs froides. En dehors du mauvais regard de tes proches et même de la société, tu te retrouves obligé de suivre un traitement avec le risque de mourir à tout moment si tu ne respectes pas les rendez-vous.
Le gouvernement camerounais a du mal à réaliser son slogan de zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Les malades se plaignent du manque des antirétroviraux, comme le témoigne Jules Okwawe que nous avons rencontré à l'hôpital de la CNPS.
Je suis très inquiet. Il devient de plus en plus difficile de trouver les antirétroviraux. Je me suis déjà rendu dans 3 hôpitaux. Mais rien. À l'hôpital de la CNPS, il y en a quand même, mais le prix a doublé. C'est trop cher. Avec mon manque de moyens, je ne sais pas comment faire pour me procurer ça.
Le ministre camerounais de la Santé publique est conscient de toutes ces difficultés. André Mamafouda annonce une thérapie de choc.
Nous avons vécu des tensions de stock du fait d'une mobilisation insuffisante des ressources par rapport à la demande. La demande était très très forte. Nous n'avions plus le temps de stocker les antirétroviraux. Aujourd'hui, au ministère de la Santé, nous réfléchissons à un fonds de soutien à la santé, un dispositif qui permettrait de collecter d'autres financements, des financements innovants. Et d'ailleurs, nous avons une autre approche, c'est celle d'amener les entreprises citoyennes à pouvoir contribuer à l'achat des antirétroviraux.
Des sources officielles, 160 000 personnes sont sous traitement au Cameroun. Les pouvoirs publics projettent de passer à 260 000 fin décembre 2017. Toute chose qui suppose que 50 000 personnes infectées seront prises en charge en 2016. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci pour votre attention. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoulia et d'Anne Albertson.